Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec les nouveaux drames des migrants en Europe, nous ferons le point avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. La situation en Guinée-Bissau au menu du Conseil de sécurité, la libération de 163 enfants soldats en République centrafricaine. Dans le dossier retour sur la réunion des femmes présidentes de Parlement, et puis avec la FAO, nous ferons le point sur les ressources en eau en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il ne se passe plus de jour en Europe sans l'annonce d'un drame de la migration. Ainsi, jeudi, 70 corps sans vie ont été retrouvés dans un camion garé non loin de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Un drame qui suscite de vives réactions, notamment de la part du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR qui indique que rien que depuis le début de l'année, plus de 2500 migrants et réfugiés ont péri en tentant de rejoindre les côtes italiennes ou grecques. Et l'agence onusienne d'ajouter que depuis le 1er janvier, plus de 300 000 migrants et réfugiés ont franchi la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Alpha Diallo.
En mer Méditerranée, plus de 2500 migrants et réfugiés ont perdu la vie depuis le début de l'année en tentant de joindre les rives européennes selon un dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'an dernier, quelques 3500 migrants et réfugiés avaient trouvé la mort ou étaient portés disparus dans ce cimetière marin. Mais ces dernières données ne tiennent pas compte des morts et portés disparus au large de la Libye après le naufrage d'une embarcation qui transportait environ 200 personnes. La manière dont les gens sont entassés sur ces bateaux et la cause de leur mort a déclaré le porte-parole du HCR au cours d'un point de presse ce vendredi à Genève. Melissa Fleming a également rappelé la mort de 51 migrants qui ont péri asphyxiés dans la cale d'un bateau jeudi. Les survivants ont raconté comment ils avaient été molestés pour les obliger à rester dans cet espace confiné et comment les passeurs les raquettaient pour les laisser sortir de la cale.
The number of refugees and migrants in the Mediterranean this year.
Par ailleurs, selon Melissa Fleming, le nombre de réfugiés et migrants ayant traversé la Méditerranée cette année dépasse maintenant les 300 000, environ 200 000 ayant atteint la Grèce et 110 000 l'Italie, contre 219 000 en 2014. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité a examiné pour la troisième fois ce mois-ci la situation en Guinée-Bissau. Miguel Trovoada, représentant spécial du secrétaire général dans le pays, a évoqué les derniers événements qui ont plongé le pays dans une impasse politique suite à la destitution du Premier ministre Domingos Simoes Pereira le 12 août dernier. Selon Miguel Trovoada, l'atmosphère est délétère en raison de la méfiance des différents partis et d'une absence de dialogue. Cependant, il a noté quelques points positifs.
Premièrement, les partis politiques et tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le dénouement de cette crise proclament leur ferme détermination à défendre démocratiquement leurs droits et leur légitimité dans le cadre du strict respect de la Constitution et des lois. Deuxièmement, les manifestations populaires réalisées jusqu'à présent se sont déroulées pacifiquement dans l'ordre, sans heurts ni violence. Troisièmement, au cours d'une rencontre que j'ai eue avec le chef d'état-major général, entouré des commandants des trois branches des forces armées, les militaires ont affirmé avec force qu'ils sont décidés à se tenir totalement à l'écart de la scène politique et à observer une attitude républicaine de soumission au pouvoir civil et d'obéissance à la Constitution et aux institutions démocratiques de l'État.
Afrique toujours, avec en République centrafricaine la libération à Batangafo par les milices anti-Balaka de 163 enfants soldats, dont 5 filles. Une libération facilitée par l'UNICEF et la MINUSCA, la mission des Nations Unies. Elle intervient 3 mois après celle de 357 enfants à la suite d'un accord conclu avec les 10 groupes armés du pays pour libérer tous les enfants enrôlés de force. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
En mai dernier, il y a eu le forum de réconciliation à Bangui, qui a été le cadre d'un accord de libération des enfants de plusieurs groupes armés. Et en mai dernier, donc, 357 enfants avaient été libérés de plusieurs groupes armés. Entre mai et août, il y en a eu quelques dizaines. Et aujourd'hui, donc, c'est la nouvelle étape qui montre que l'accord du forum de réconciliation à Bangui est en route. Beaucoup reste à faire. Mais déjà plusieurs centaines, et espérons aujourd'hui encore plus, d'enfants ont déjà été libérés. Évidemment, beaucoup reste à faire parce que nous estimons le nombre d'enfants enrôlés dans les groupes armés en République centrafricaine entre 6 et 10 000.
Et puis en Côte d'Ivoire, à l'approche des élections et afin d'assurer un traitement équitable de l'information, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle donne des directives claires en procédant à la sensibilisation des radios de proximité sur leurs devoirs et responsabilités. Près de 140 stations sur tout le territoire sont concernées, comme le souligne le président de la Haute Autorité, Ibrahim Sissavané.
Pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la régulation des médias, nous donnons des directives claires. Nous avons fait la sensibilisation de plus de 140 radios pour attirer l'attention des radios de proximité sur leurs responsabilités dans cette période. Nous avons eu des échanges avec la CEI, qui est effectivement la grande structure en charge des élections. Et nous avons fait connaître nos points de vue. Il nous restait à mettre au point avec la RTI des modalités pratiques. Cela consiste à organiser des émissions avec les représentants des candidats. Cela consiste également à inviter les candidats une fois que la liste sera arrêtée au cours d'émissions où ces candidats vont exposer leur vision, leur projet de société.
Enfin, retour sur la soumission jeudi soir par le secrétaire général Ban Ki-moon et le directeur général de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de recommandations au Conseil de sécurité pour renforcer les investigations sur les armes chimiques en Syrie, conformément à les résolutions 2235 récemment adoptées. Christina Silvero.
Cette résolution, adoptée à l'unanimité par le Conseil le 7 août dernier, crée un mécanisme d'enquête conjoint ONU-OIAC permettant d'identifier les responsables de l'utilisation d'armes chimiques, y compris le chlore, dans la République arabe syrienne. Le Conseil doit désormais répondre aux recommandations dans les 5 jours qui suivent. Le mécanisme deviendra pleinement opérationnel une fois ces recommandations approuvées par les 15 et sera créé pour une période d'un an avec la possibilité de prorogation si nécessaire. Dans une déclaration ce jeudi, le chef de l'ONU a fermement condamné une telle utilisation d'armes par toutes les parties au conflit. Ban Ki-moon qui a rappelé que la communauté internationale a la responsabilité d'en tenir les auteurs responsables et d'assurer que des armes chimiques ne soient plus jamais employées comme un instrument de guerre.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
La 10e réunion des présidentes de parlement organisée par l'UIP les 29 et 30 août va être consacrée à des questions fondamentales qui consistent notamment à renforcer la parité dans les parlements, à mettre fin à la violence faite aux femmes et à veiller à l'adoption de budgets suffisants pour parvenir à l'égalité entre hommes et femmes. Karine Jabre, directrice de la division des programmes et responsable du programme pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes à l'Union interparlementaire. Des propos recueillis par Florence Westgaard.
Les femmes présidentes de parlement se réunissent, ça fait maintenant 10 ans, dans le cadre de l'Union interparlementaire, et elles utilisent cette plateforme pour essayer de mener un débat un peu plus avant-gardiste et pour essayer de pousser certains thèmes et certaines questions qui sont liées à l'égalité des sexes et à l'avancement sur ce thème-là, au progrès. Donc, elles utilisent cette plateforme pour échanger des stratégies, pour réfléchir ensemble, et là, le thème qu'elles ont choisi, c'est l'innovation, parce que qui semble être la conclusion de Beijing plus 20 et puis d'autres processus, notamment aussi des Millennium Development Goals, c'est qu'on a fait des progrès, mais pas assez pour vraiment atteindre l'égalité entre hommes et femmes. Et donc, il faut peut-être réfléchir autrement, il faut innover, il faut peut-être être un peu plus courageux ou réfléchir autrement afin de vraiment rompre certains schémas, certains mécanismes, certaines cultures ou pensées qui limitent les progrès par rapport à l'égalité des sexes.
Oui, donc bien sûr, donc, il y a l'égalité des sexes, mais donc on parle d'arriver à une société plus démocratique et plus pacifique. Donc, pensez-vous que cette égalité permettrait justement cette société plus démocratique ?
Oui, absolument. Pour l'Union interparlementaire, la notion d'égalité entre hommes et femmes est au cœur de la démocratie. Et d'abord, déjà au sein des parlements, on ne peut pas parler de démocratie et de vraie représentativité s'il n'y a pas une forte participation des femmes dans la prise de décision, tant au niveau des parlements qu'au gouvernement, mais au niveau local, etc. Donc, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce qu'un parlement répondre aux besoins des femmes si les femmes ne sont pas représentées de manière forte et efficace au sein des parlements. Donc, une égalité des sexes ou une égalité entre hommes et femmes dans la prise de décision est déjà une des nécessités pour une vraie démocratie. Mais d'autre part, je veux dire, si les femmes n'ont pas la possibilité de s'exprimer, d'être indépendantes dans la société civile ou de manière générale, elles ne peuvent pas contribuer à tout le débat sociétal qui existe et donc on ne peut pas vraiment parler de fonctionnement véritablement démocratique si on ne les entend pas et si elles n'ont pas une certaine indépendance et autonomie. Donc, atteindre l'égalité entre hommes et femmes, c'est vraiment un moyen de consolider des processus démocratiques et également de maintenir une paix sociale. Et c'est pour ça aussi le lien entre l'égalité des sexes et la paix ou la fin des conflits, etc., est très importante.
Et donc, ce week-end, je pense qu'il y a environ 32 présidentes de Parlement qui viennent à cette réunion à New York. Et donc, quel est votre espoir, en fin de compte, de ces deux jours? Puisque après, donc, il y a justement la quatrième conférence.
Donc, la quatrième conférence mondiale des présidents de Parlement commence lundi prochain. Et donc, les femmes présidentes se réunissent juste avant. Et dans mon expérience, les femmes, tant au Parlement qu'au plus haut niveau des responsabilités, parce qu'elles font face à plus de limites et plus de défis, elles ont cette capacité de travailler ensemble et de trouver des stratégies ensemble. Souvent, dans beaucoup de parlements, ce sont les femmes parlementaires qui arrivent à travailler ensemble de manière transversale au travers les partis politiques. Donc, elles vont au-delà des partis politiques, elles arrivent à travailler ensemble. Et je crois que ces femmes présidentes de parlement vont pouvoir, pendant deux jours, essayer de trouver des stratégies communes pour pouvoir avancer sur les questions d'égalité des sexes, d'entendre d'innovations d'un pays et l'autre, etc. Et je crois que leur objectif, c'est de faire en sorte que ces nouvelles stratégies ou cette nouvelle manière de voir les choses soient reflétées dans le document final qui va être adopté par l'ensemble des présidents de parlement comme résultat de la quatrième conférence mondiale des présidents de parlement. Donc elles veulent influencer, entre autres, le résultat de la quatrième conférence mondiale.
Cette semaine, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a lancé un accès libre à une base de données qui permettra aux pays pauvres en eau d'obtenir plus avec moins. Ce portail de données, toujours en cours d'élaboration, devrait aider les pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord à mieux gérer leurs ressources hydriques dans un contexte difficile de graves pénuries qui risquent de s'aggraver. Jean-Marc Forest, de la Division des Terres et des Eaux à la FAO, il est au micro de Tsige Chiferao.
Nous avons effectivement mentionné cette nouvelle initiative que nous lançons maintenant de cette base de données en libre accès qui concerne la productivité de l'eau en agriculture. Alors, pourquoi est-ce que nous nous intéressons à ça? C'est très simple. Comme probablement vous le savez, les ressources en eau sont limitées et la demande semble ne pas s'arrêter. Tous les secteurs de l'économie ont besoin d'eau. Et l'agriculture est de loin le premier utilisateur mondial d'eau avec plus de 70% au niveau mondial, parfois plus de 90% de l'utilisation de l'eau dans un pays qui va à l'agriculture. Vous imaginez bien que dans des situations de rareté croissante de l'eau, l'usage qui est fait de cette eau en agriculture doit être suivi avec beaucoup d'attention. Alors, je vous ai parlé de productivité de l'eau en agriculture et produire plus avec moins d'eau. Ça, c'est l'objectif pratiquement principal du travail que nous faisons à la FAO dans le domaine de l'eau, produire plus avec moins d'eau puisqu'il y a de moins en moins d'eau disponible. Alors, bien sûr, produire plus avec moins d'eau, c'est un bel objectif, mais pour pouvoir mesurer le succès et mesurer la situation tant au niveau local qu'au niveau mondial, il faut être capable justement de mettre en place des instruments de mesure qui nous permettent de suivre la situation et de voir si nous faisons des progrès et si nous les faisons assez vite.
Comment est-ce que ces outils fonctionnent et pour le bénéfice de qui?
Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on travaille à plusieurs échelles. À l'échelle globale, nous espérons et dans un avenir pas trop lointain, être capable de contribuer à la grande machine de suivi qui est en train de se mettre en place dans le cadre des objectifs de développement durable. Vous savez, évidemment, puisque nous sommes dans les Nations Unies, qu'en septembre, l'Assemblée générale va voter un agenda très ambitieux pour les 15 prochaines années, dans lequel il y a un objectif spécifique lié à l'eau. Et parmi les différents enjeux de cet objectif, nous avons les pays ont décidé de faire des efforts pour augmenter l'efficience de l'utilisation de la ressource eau et donc la productivité de l'eau dans tous les domaines. Et donc, il va y avoir un effort global énorme dans les années à venir pour pouvoir mesurer les progrès notamment en ce qui concerne ces différents objectifs de développement durable et notamment celui de l'eau. Et il sera donc nécessaire de pouvoir avoir une image à l'échelle globale de la situation et des progrès qu'ils ont faits.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.